Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5. Nous allons relire les versets 1 à 12 et nous focaliser aujourd'hui sur les versets 6 à 10. Matthieu, chapitre 5, et nous commençons la lecture au verset 1, et voici la parole de Dieu. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Et c'est la parole de Dieu. Commençons par une histoire. L'histoire d'un entraîneur d'athlétisme qui avait un seul objectif, celui de voir ses athlètes devenir les meilleurs. Et là, il leur a donné tous les avantages possibles, que ce soit dans l'entraînement, mais aussi dans l'équipement. Et quand cet entraîneur rentrait chez lui, il passait du temps à concevoir des chaussures de course qui soient plus adaptées, et à dessiner un équipement de course qui serait plus léger. Il est allé jusqu'à découper des prototypes de chaussures sur le gaufrier de sa femme. Et il les a donnés à ses coureurs. Il a apporté ses chaussures qu'il avait créées et l'équipement de course qu'il avait dessiné à un homme d'affaires. La conséquence de cela a été la naissance de Nike. Quand on poursuit un objectif, il y a des conséquences, et certaines conséquences sont parfois imprévues. L'objectif de porter l'Évangile à toutes les nations a eu une conséquence encore plus large. Il a apporté l'alphabétisation à beaucoup de peuples. La foi chrétienne, on le sait, est une révélation de Dieu qui est centrée sur un livre. Les prophètes, les apôtres ont parlé de la part de Dieu. Ils ont écrit les actes de Dieu afin que toute la vérité soit préservée après qu'ils, eux, soient partis. On a lu Jérémie. Jérémie n'est plus là, mais ses paroles sont là. Les livres peuvent aller partout. Quand les missionnaires au premier siècle et dans les siècles suivants, sont sortis des limites de l'Empire romain. Ils ont souvent rencontré des peuples qui n'avaient pas de langue écrite. Ils ont adapté leur alphabet, ils ont adapté leur propre grammaire aux langues parlées. Ils ont créé des langues écrites pour permettre au peuple de pouvoir lire la Bible dans leur langue maternelle. Le désir de transmettre le livre, de transmettre la Bible a eu pour conséquence l'alphabétisation de beaucoup de personnes. Mais avant cela même, le Seigneur Jésus-Christ a fait un point similaire sur les objectifs et leurs conséquences. Et il dit ici que la recherche de la justice conduit à des résultats qui sont, selon Dieu, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ceux qui recherchent cette justice connaîtront, seront satisfaits, et leur faim sera satisfaite. Et la même chose, les miséricordieux obtiendront miséricorde, les cœurs purs verront Dieu, ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Mais avant de venir à ces béatitudes, cette deuxième partie des béatitudes. Notons d'abord deux choses. La première, c'est l'aspiration à ce caractère du disciple. On dit généralement, on admet dans le monde que notre tempérament est dans une large mesure donné à notre naissance. La personnalité change très peu pendant notre vie. Un garçon joyeux sera probablement un homme joyeux. Une fille rayonnante sera probablement une femme rayonnante. Un enfant aigri sera probablement un adulte aigri. On a tendance à développer ces dispositions qui sont présentes dès les premiers stades de la vie. Mais le caractère est beaucoup plus changeant que la personnalité. Les gens peuvent parfois gagner ou perdre leur sens moral. Les menteurs, les voleurs peuvent devenir honnêtes. Les bons politiciens, les policiers, les hommes d'affaires peuvent devenir malhonnêtes. La question, bien sûr, c'est comment ce changement moral se produit-il ? Quelle est la source d'un caractère qui est noble ? Le philosophe de l'Antiquité, Aristote, il écrit ceci : nous devenons justes en faisant des actes justes, tempérés en faisant des actes tempérés, courageux en faisant des actes courageux. Et selon ce philosophe grec Aristote, le caractère est un rôle que nous jouons jusqu'à ce que nous devenions progressivement ce rôle. Le caractère commence par un choix, le choix de se comporter d'une certaine manière. Une action qui est répétée assez souvent devient une habitude, et l'habitude, quand elle est bien enracinée, devient soit une vertu, soit un vice. L'approche d'Aristote met l'accent sur la vie extérieure plutôt que la vie intérieure. Il met l'accent sur les vertus publiques, la maîtrise de soi, la civilité. Les dirigeants politiques peuvent être attirés par ce concept. Ils vont adopter des pratiques qui suggèrent qu'ils sont un personnage digne, honorable. L'idée qu'ils veulent projeter, c'est qu'ils sont ce qu'ils font, au moins en public. Les pensées et les traits personnels ont peu d'importance. C'est la perception du caractère par le public qui compte le plus. Le caractère devient le rôle que l'on choisit de jouer. Et si on joue bien ce rôle, on va gagner l'honneur des autres, une certaine fierté en atteignant ce statut. Mais l'intérêt pour cette projection publique du caractère, elle n'est pas entièrement mal avisée. Parce que notre comportement public reflète notre véritable caractère, au moins en partie. Mais la Bible nous dit qu'une bonne réputation est précieuse. Proverbe 22 dit « La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. » Mais la projection publique, la réputation mène souvent à l'hypocrisie et à la fierté. Un auteur a écrit que l'humilité, une vertu biblique, elle ne peut survivre qu'en présence de Dieu. Elle doit être nourrie en privé. Et l'Écriture et la parole de Dieu regardent certainement au cœur, à la vie intérieure, bien plus qu'à la projection publique du caractère. C'est bien sûr l'exemple du Seigneur Jésus-Christ qui est l'exemple parfait. Il a poursuivi, il a recherché la justice de telle manière que même les gens n'ont pas hésité à le décrire comme un glouton, un ivrogne, parfois même comme un pécheur. Il a reçu le déshonneur alors qu'il était la perfection même dans son caractère. La deuxième chose à noter, c'est la présence de Dieu dans les béatitudes. Quand on lit les béatitudes comme cela, à première lecture, il semble que Dieu soit invisible. Il n'est mentionné qu'une seule fois, verset 8, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Mais en réalité, la main de Dieu, elle est partout dans les promesses du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'original, il y a des verbes qui sont à la forme passive. Et ça se revoit, ça se voit quand même dans notre traduction. « Ceux qui pleurent seront consolés. Les affamés seront rassasiés. Ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Les miséricordieux seront littéralement miséricordieux. Dans ces phrases, on ne nous dit pas qui remplira ces promesses. Qui viendra réconforter ceux qui pleurent? L'agent réconfortant n'est jamais précisé. Et dans les temps bibliques, les Israélites étaient tellement zélés pour éviter de prendre le nom de Dieu en vain qu'ils voulaient éviter d'utiliser son nom à tout prix. Et une façon d'éviter son nom était d'utiliser ce qu'on appelle un passif divin, c'est-à-dire un verbe sous forme passive où Dieu est l'agent qui n'est pas déclaré. Et le Seigneur Jésus-Christ utilise cette expression-là. Et le sens de ces phrases est donc que c'est Dieu qui réconforte ceux qui pleurent. C'est lui qui nourrit ceux qui ont faim de justice. La Bible enseigne à la fois que Dieu accorde un cœur nouveau, un caractère nouveau. C'est la prière du psalmiste dans le psaume 51. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Mais la Bible enseigne aussi qu'il nous appelle à rechercher la justice, à rechercher la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. C'est l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 6, par exemple. Et les béatitudes soulignent ces deux réalités. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ bénit les disciples qui ont faim et soif de justice, il bénit ceux qui font de la justice leur but. Mais les verbes sous la forme passive nous rappellent que c'est Dieu qui est présent dans notre quête. C'est lui qui réconfortera, c'est lui qui satisfera, c'est lui qui fera de preuve de miséricorde envers ses fils et ses filles qui poursuivent ce but. Mais revenons donc aux béatitudes. À la béatitude, nous avons vu les premières et nous étions arrêtés sur la béatitude charnière, le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Avoir faim et soif de justice et avoir faim de Dieu, c'est désirer Dieu. Et si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, nous cherchons aussi le roi. Nous aspirons à sa présence, nous aspirons à sa domination. Mon âme a soif de Dieu vivant, s'écrit le psalmiste dans le psaume 42. Le Seigneur Jésus-Christ dit en Jean 6, verset 35, « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Avoir faim et soif de justice, c'est aussi désirer, c'est désirer Dieu, c'est désirer sa parole, c'est désirer la parole de Dieu. Cette faim, cette soif sont personnelles, mais elles sont plus que simplement personnelles. On désire que Dieu nous change, oui, qu'il nous transforme. Il a promis de le faire, de nous transformer à l'image de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Mais on désire aussi qu'il transforme cette société dans laquelle nous vivons, afin que son règne soit visible. Nous ne sommes pas, en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, des individualistes. On ne va pas grandir en se retirant du monde dans un monastère. Non, on aspire à une influence dans la société. On sait très bien que la société est déchue, mais on veut avoir une influence dans cette société. On désire parler aux autres avec douceur, mais avec confiance, pour offrir des conseils, être un modèle qui pourrait être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Mais bien sûr, le monde autour de nous n'est pas toujours ouvert aux conseils. Mais même si nous manifestons un semblant du caractère que le Seigneur Jésus-Christ décrit dans ses béatitudes, les gens pourraient s'arrêter, prêter l'oreille, écouter, se poser des questions. Pourquoi sont-ils différents? Peut-être que nos vies sont suffisamment désordonnées, juste assez loin de nos propres conseils pour nous garder dans l'humilité. Et une humble conscience de nos échecs est quelque chose d'attrayant, d'attachant, quand on veut donner des conseils aux autres. On reconnaît nos propres faiblesses, on reconnaît notre propre dépendance de Dieu. Le point le plus important, c'est que notre quête de justice nous conduit à aider les autres, pas seulement à chercher à nous améliorer nous-mêmes. Personne n'est à la hauteur de ses aspirations. Notre ambition dépasse nos capacités, mais cela ne nous amène pas au désespoir. Cela augmente notre faim, notre soif de justice. Cela nous fait désirer le jour où nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2. Cela nous fait désirer le jour où nous n'aurons plus faim, plus soif, parce que la justice de Dieu couvrira la terre. Il y a le danger, bien sûr, comme j'ai souligné la dernière fois, de s'installer dans une simple routine, dans un devoir. On va s'accrocher, on va rechercher, on va tomber dans des pièges, rechercher une passion mal dirigée. Mais le Seigneur Jésus nous appelle à nourrir cette passion juste, la passion de fin de la justice de Dieu. Dieu va satisfaire notre faim, il va satisfaire notre justice, et quand il le fait, il nous transforme. Et les trois béatitudes suivantes décrivent ce changement. Les pauvres en esprit sont miséricordieux, les affligés deviennent purs, les doux procurent la paix. Et la croissance de ces traits de caractère sont la conséquence de cette faim, de cette soif de justice que le Seigneur vient répondre. La conséquence, donc, les conséquences de cette faim et de cette soif de justice. Tout d'abord, la miséricorde, verset 7. Quand Jésus dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde », et littéralement, c'est « Heureux les miséricordieux, car ils seront miséricordieux ». Ce n'est pas une remarque isolée. Elle découle de la quatrième béatitude qui décrit notre fin, et elle décrit aussi de la première. Quand le Seigneur Jésus-Christ bénit ceux qui sont pauvres en esprit, il met en avant la miséricorde, car les pauvres en esprit sont miséricordieux. Quand nous reconnaissons notre pauvreté spirituelle, notre faiblesse, notre péché, nous voyons différemment la faiblesse et les péchés des autres. Si nous sommes pauvres en esprit, nous en venons à comprendre nos propres défauts. Nous en venons à développer une certaine patience avec eux. Mais en conséquence, nous apprenons à être empathiques, patients, compatissant avec les autres et avec leurs défauts. Nous ne sommes plus condescendants. Nous ne demandons plus ce qui ne va pas chez lui ou comment il a pu faire ça. Nous savons que nous aurions pu faire, peut-être que nous l'avons fait, la même chose. Lorsqu'on voit un frère, une sœur en difficulté, on lui montre cette compassion et on se demande « Mais comment est-ce que je peux l'aider ?» Ce sentiment de compassion conduit à l'action. Les pauvres en esprit sont miséricordieux. Ils nous offrons de l'aide aux autres. Seigneur Jésus-Christ cite dans Matthieu 9, verset 13, dit que Dieu demande, il prend plaisir à la miséricorde. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans le chapitre 23, dit que cela même était la chose la plus importante dans la loi. Et comme on l'a dit la dernière fois, les béatitudes sont aussi un portrait du Seigneur Jésus-Christ. Sa demande est aussi son don. Le Père nous appelle à nous conformer au Fils. C'est Augustin qui disait « Exigez ce que vous voulez et donnez ce que vous exigez ». Nous montrons de la miséricorde parce que nous avons reçu la miséricorde de Dieu. Dieu promet de donner sa miséricorde à ceux qui vivent de sa miséricorde. Les miracles de Jésus montrent comment cette miséricorde entre en action. La miséricorde a poussé le Seigneur Jésus à guérir des foules, à nourrir 4000 hommes affamés, à rendre la vue aux aveugles, à donner la vie au fils unique d'une veuve. Nous, on ne fait pas de miracles, mais on peut dire ce que Pierre a dit. À un homme dans le besoin. Je n'ai ni argent ni or, Mais ce que j'ai, je te le donne. Alors posons-nous la question, comment pouvons-nous aider? Qu'est-ce que je peux donner? Le besoin prend toutes sortes de formes. On peut y répondre par un repas, par notre temps, avec un conseil. Quel que soit le besoin, si nous avons faim et soif de justice, nous ferons preuve de miséricorde. Ensuite, il parle de la pureté de cœur. Et la pureté de cœur a deux sens distincts dans l'Écriture, et les deux sens sont liés. Tout d'abord, la pureté de cœur décrit cette sainteté intérieure, morale, intérieure, qui est le contraire de la piété extérieure. Les prophètes de l'Ancien Testament opposaient plutôt l'observance rituelle de la loi, surtout les sacrifices et la circoncision, à l'obéissance à l'alliance qui venait d'un cœur sincère. Moïse a appelé Israël à circoncire les cœurs, pas seulement la chair. Samuel dit « l'obéissance vaut mieux que les sacrifices », 1 Samuel 15, 22. Le prophète Jérémie, dont on a cité un passage tout à l'heure, a tiré à boulet rouge sur les Israélites qui s'étaient réfugiés dans le temple, pendant qu'en même temps, ils opprimaient les faibles et ils couraient après d'autres dieux. Jérémie 7, les versets 1 et suivants. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et publie cette parole et dis « Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité, en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi ? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. On pourrait continuer le passage dans Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 10. De l'abord, donc, l'expression « la pureté de cœur » décrit cette morale, sainteté morale intérieure, contraire d'une piété extérieure. Mais la deuxième signification, c'est que la pureté peut signifier aussi la simplicité, l'absence de duplicité, l'absence de jouer un double jeu. Et les purs, de ce point de vue-là, sont ceux qui montrent la miséricorde parce qu'ils aiment la miséricorde. Et pas pour gagner une récompense. Il montre de la bonté à ceux qui ne peuvent pas nous remercier. Il montre de la bonté aux étrangers qu'ils ne reverront sans doute jamais. Et le Seigneur, et dans Matthieu, pardon, Jésus met en avant la pureté de cœur dans les deux sens. Dans le premier sens, le Seigneur Jésus s'attend à ce que notre pureté intérieure corresponde à notre pureté extérieure. Dans le chapitre un peu plus loin, chapitre 5 un peu plus loin, il dit que nous devons fuir l'adultère, pas seulement dans nos actes, mais aussi dans nos pensées. Dans le chapitre 6, il parle de la prière en public, mais il dit que nous devrions être plus attentifs encore à la prière en privé, lorsque personne ne nous voit. Et puis j'ai cité ce passage en Matthieu chapitre 23, le Seigneur va écorcher les pharisiens et les scribes pour leur religion purement extérieure. Malheur à vous, scribes et pharisiens, Matthieu 23, verset 23. Hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Ils ont l'air justes de l'extérieur, mais ils sont pleins d'hypocrisie. Et quant au deuxième sens de la pureté Le Seigneur Jésus bénit l'œil qui est fixé sur une seule chose, la volonté de ne servir qu'un seul maître. Matthieu 6, verset 22. La deuxième et la sixième béatitude forment une paire. Le disciple pleure à cause du péché. Et celui qui pleure à cause du péché, il désire avoir ce cœur pur. Parfois, on se retrouve dans une fête et on ne se sent pas à notre place. Les invités sont dans un état d'ébriété, racontent des blagues un peu mal placées, peuvent se ridiculiser. On peut être avec des personnages, des influenceurs de ce monde qui s'enflamment au sujet de tout et de n'importe quoi. Mais le Seigneur Jésus-Christ a aussi un moment privilégié, un moment de fête pour son peuple, autour de sa parole. C'est un moment béni pour ceux qui se sentent chez eux, dans la présence de Dieu. Et ce sentiment d'appartenance ne vient pas de notre race, ne vient pas de notre classe sociale, ne vient pas de nos goûts musicaux. Non, il vient du désir que Dieu a implanté dans notre cœur, de voir le Dieu pur et d'être transformé à l'image de son Fils. Avoir un cœur pur signifie vivre sans compromis. L'histoire nous montre que très souvent dans les conflits, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi les conflits même actuels, certaines industries vont faire des affaires rentables avec l'ennemi, même pendant le conflit. Et quelqu'un écrit que lorsque la sécurité nationale et les profits entrent en collision, attendez-vous à ce que les hommes d'affaires soient des hommes d'affaires. Mais dans le peuple du Seigneur Jésus-Christ, dans le peuple de Dieu, les hommes et les femmes sont appelés à rechercher la pureté de cœur, de vivre sans compromis. On évite la double allégeance. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. On ne sert que notre Dieu. Et poursuivre le Seigneur, c'est poursuivre sa pureté, rechercher la pureté. Et ensuite, la paix, la pacification. Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Notez que Jésus ne dit pas qu'ils seront appelés enfants de Dieu, comme dans certaines versions, mais bien fils de Dieu. Et dans la pensée juive, être fils de voulait dire partager le caractère de. Fils de Dieu et enfant de Dieu font référence à la même relation avec Dieu. Mais l'expression fils de Dieu met l'accent sur le caractère plutôt que sur la position. Et on voit comment la troisième béatitude mène à la septième. Les doux, qu'on peut aussi traduire humbles, deviennent des artisans de paix. Et ils le deviennent pour deux raisons. Tout d'abord, ils savent qu'ils sont sans mérite. Ils cessent de se promouvoir, de se mettre en avant. Ils cessent de courir après, de s'accaparer les privilèges et la reconnaissance. Et quand ils cessent d'exiger, la paix a tendance à émerger. Parce que la plupart des conflits découlent de l'affirmation de soi et chacun qui veut s'affirmer. Les doux savent qu'ils sont sans mérite, que tout ce qu'ils possèdent, ils l'ont reçu par grâce. Deuxièmement, ceux qui sont en conflit font confiance à ceux qui sont doux, à ceux qui sont humbles, pour faire la paix. Les doux ne recherchent pas à obtenir un avantage. Ils ne se demandent pas « qu'est-ce que je peux obtenir ? De qui est-ce que je peux obtenir une faveur ?» Non, ce sont des courtiers impartiaux, honnêtes. Et les gens qui sont dans un conflit font confiance à ceux qui sont doux parce qu'ils ne visent pas des faveurs futures. Et les véritables disciples de Dieu ont la paix avec Dieu. Celui qui partage l'Évangile est un artisan de paix. Cette paix, ce n'est pas de permettre à quelqu'un d'aller au bout du monde avec un aller simple, en lui donnant 1000 euros et en disant « c'est bon, on a la paix ». Non, cette paix découle de cette relation saine avec Dieu, cette relation dans laquelle Dieu nous a fait entrer par la foi en Jésus-Christ, par grâce. Bien entendu, la paix avec Dieu ne conduit pas toujours à la paix temporelle. La pacification est un processus qui exige plusieurs personnes volontaires. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrit en Romains chapitre 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Mais la paix est plus que l'absence de conflit. C'est la maturité, c'est le bien-être tel que Dieu les définit. Et on peut avoir besoin de conflits constructifs pour parvenir à une telle paix. Le Seigneur Jésus-Christ a fait la paix en apportant un conflit. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme j'aimerais qu'il soit allumé. Luc 12, 49. Mais le rétablissement de la paix a aussi des impacts, des aspects internes, des aspects personnels. Les inquiétudes peuvent détruire la paix. Le mécontentement vient perturber la paix. L'envie perturbe la paix. Quand on essaye de deviner les motivations des autres, cela peut aussi perturber notre paix. Un commentateur raconte l'histoire suivante. Il dit un pasteur d'une petite église, et puis l'église s'aimait beaucoup. Mais un jour, il a rallongé le culte de 15 minutes. Il y a une certaine résistance. Personne ne s'est fâché. Mais il y a un homme qui a attiré l'attention du pasteur. Le culte du matin, c'est passé aux États-Unis, le culte du matin se terminait autrefois à 10h30. Mais avec ce changement, il se terminait à 10h45. Et voilà que cet homme était toujours assis au fond de l'église, de la salle. Et chaque semaine, il se levait à 10h30 précise. Il mettait sa veste et il s'en allait. Il ne disait jamais rien. Le pasteur sentait que cet homme était mécontent et le pasteur était un petit peu en colère contre lui. Puis un dimanche, le pasteur a décidé de changer l'ordre du culte et il a mis le sermon en premier. L'homme est reparti à 10h30, comme toujours. Mais un peu plus tard dans la journée, sa femme a appelé le pasteur. Elle dit « Pasteur, vous ne pouvez pas imaginer à quel point mon mari était heureux aujourd'hui. Chaque dimanche, il doit se présenter au travail à 10h45. Chaque semaine, il attend jusqu'à la dernière minute possible et il regrettait de ne jamais pouvoir rester jusqu'à la fin de votre message. Mais aujourd'hui, il a entendu tout votre message et il en est très heureux. Il fallait que je vous le dise. » Si on essaye de deviner, de chercher à deviner les motivations des autres, c'est un moyen de venir perturber notre paix. D'autant plus que par cette perversion, cette impulsion perverse, nous avons tendance à faire des suppositions les plus négatives, les plus destructrices. Mais au lieu de cela, apprenons-nous, si nous avons la paix avec Dieu, nous pouvons nous libérer de toute inquiétude au sujet des choses qui sont moins importantes. Que dire pour terminer? Les béatitudes ne sont pas une liste de vertus isolées. Ce n'est pas une liste de vertus comparables à des vertus classiques. Examiner les béatitudes est quelque chose d'intimidant parce que cela révèle notre incapacité à atteindre les qualités que le Seigneur Jésus-Christ souligne. Et pourtant, si on porte ce fardeau au Seigneur Jésus, si on admet notre faiblesse, la bénédiction a déjà commencé. Après tout, la première béatitude, c'est « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Nous sommes bénis lorsque nous portons notre faiblesse, notre pauvreté au Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous reconnaissons notre besoin de lui. Les béatitudes énumèrent les facettes d'un caractère qui est enraciné dans le désir de partager la justice du Seigneur Jésus-Christ. Et nos désirs ont des conséquences, comme le désir d'une meilleure chaussure a conduit à la création de Nike. Un désir d'évangélisation a conduit à la création de langues écrites, aux traductions de la Bible, à l'enseignement de la lecture, à l'alphabétisation. Le désir de justice nous conduit à la faim et à la soif de justice. Et cette faim nous conduit à l'Évangile. L'Évangile nous conduit à Christ. Et à ce désir de vouloir lui ressembler toujours plus. Que Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.